Parashat Be'alotra, chapitre 10. À la fin de ce chapitre, il y a deux versets qui sont comme entre parenthèses. Il y a deux lettres Nun retournées qui les entourent. Le pasuk dit, voyez Binso Aaron, voici quand l'arche devait voyager. Moshe disait, Kuma Hashem vayafutso yvecha, que éternel, lève-toi, que tes ennemis se dispersent et se sauvent. Ceux qui te haïssent devant toi. Ouvnu hoyoma, et quand il devait se poser, Shuva Hashem revot alfei Israël. Reviens Hashem et installe-toi dans les myriades d'Israël. Ces deux versets sont considérés, selon une version dans la Gemara, comme étant un Sefer Torah à part entière. Et le Rav Chida rapporte au nom des Kabbalistes qu'à la fin des temps, ces deux versets qui ont 19 mots et 85 lettres seront aussi grands que tout le Sefer Torah que nous possédons. Rashi rapporte une autre version dans la Gemara qui dit que ces versets-là ne sont pas à leur place. Ils ont été placés ici pour séparer deux poraniot, deux sanctions. La sanction qui suit, c'est que juste après, il dit, voyez, Am kemit onanim ra beozne Hashem, le peuple a commencé à se plaindre de manière inadmissible devant Hashem. Mit onanim, ils ont cherché un prétexte pour s'éloigner de Dieu. Et là, ils ont été sanctionnés. Et à partir de là, vont suivre toutes sortes de dérives de la part d'Israël qui vont entraîner sanction après sanction. Ils vont demander de la viande, ils vont se plaindre des interdits des sexuels, parce que à partir de là, la Torah a interdit, par exemple, qu'un homme se marie avec sa tante et certains devront divorcer, et etc. Ils se sont plaints de la manne, etc. Mais qu'est-ce qui précède? Ramban demande sur Rashi, il dit, mais avant cela, il n'y a rien qui précède, il n'y a aucune sanction qui précède. Et il rapporte la Gemara qui dit, et le Midrash qui disent que précédemment, qu'est-il dit? Deux versets plus haut, il est marqué, Vaisou Me'aradonai. Ils ont voyagé de la montagne de l'Éternel. Derrière Shoshetamim, ils ont fait en un jour le chemin de trois jours. Et l'arche d'alliance de Dieu, Nosia Lifneem, voyageait devant eux, et les précédait d'un chemin de trois jours. Pour leur préparer le chemin et pour leur préparer le campement. Ve'anan Adonai aleihem yomam, et la nuée de l'Éternel était sur eux le jour. Benoasa mina mahane, même dans le déplacement, les nuées, les sept nuées rachidiennes étaient sur eux. Voici ce pasouk-là, Vaïs Omea Rachem, est étonnant. Pourquoi Ramban dit que jamais le Har Sinaï n'a été qualifié de Har Hashem, il est qualifié ou de Horev ou de Har Elohim. Alors quand il est dit Vaïssou me Har Hashem, Ramban rapporte Chazal qui disent que en vérité Israël, dans quel état d'esprit ont-ils quitté la montagne de Har Sinaï? En se sauvant de devant Dieu. Ils ont comme un enfant qui se sauve de l'école. Les enfants sont en train d'étudier à l'école. Ils apprennent la Torah. Tout d'un coup, c'est la sonnerie, c'est la récréation. Dès que la sonnerie retentit, les enfants se lèvent et sortent. C'est le moment de se lâcher. Enfin, l'heure est finie. Enfin, l'étude est finie, on va pouvoir jouer. Dans cet esprit-là, les Bnei Israël vont quitter le Har Sinaï. Ils donnent le Dieu à l'Éternel. Ils se sont dit, si nous restons, peut-être qu'il va nous rajouter encore des mitzvot, peut-être qu'il va nous rajouter encore de la Torah, et que notre vie ne pourra pas être une vie matérielle. Donc c'est ce qui est marqué ici. Donc, et cela va entraîner plus loin toutes les dérives qui vont se succéder, comme ils se sont plaints du chemin, donc ils vont se plaindre de la difficulté de marcher dans le désert, alors qu'ils n'avaient aucune difficulté, puisqu'ils étaient entourés par les nuées. Ils vont se plaindre de la manne, ils vont se plaindre de toutes sortes de choses sans aucun motif. Et à chaque fois, il est utilisé le terme « mit onanim », il cherche un prétexte pour s'éloigner de Dieu. La vérité, c'est comment on en arrive là. Les Bnei Israël qui entendent la voix d'Hachem, qui sont devant la montagne du Sinaï, qui apprennent la Torah, comment peuvent-ils arriver à se détourner de HaKadosh Baruch Hu? Le Keli Yakar pose la question, se pose cette question-là de manière fondamentale. Et il ramène Rashi, il ramène le Ramban, les enseignements de nos maîtres, et il traduit, il fait l'analyse suivante. Il dit, en vérité, les Bnei Israël ont tourné le dos devant l'Éternel, devant Hachem. Le sens profond de ça signifie que c'est pas qu'ils n'ont pas voulu faire la Torah, qu'ils refusent d'étudier la Torah ou de se consacrer aux mitzvot. Absolument pas. Tous les Juifs de tout temps se consacrent à la Torah et aux mitzvot. La question est, combien sommes-nous prêts à investir? Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à nous investir dans la Torah et les mitzvot? Est-ce que nous mettons une limite à ce que nous sommes prêts à nous consacrer à la Torah? Ils se sont dit, c'est suffisant, la Torah que nous avons, c'est suffisant. Alors, si l'heure du départ a sonné, allons-y. Retournons-nous de cette montagne, parce que ça risque de s'alourdir. Donc ils ont mis une limite à leur investissement. Ils se sont dit, c'est suffisant. Et ça, cet état d'esprit-là est inacceptable pour Hachem. La Torah demande de nous un investissement total de notre part, un désintéressement total de faire les choses de manière désintéressée, juste pour la gloire d'Hachem. Et le Keli Yakar dit que les deux nouns qui sont comme des parenthèses entre ces deux versets, ce nun signifie, quel est leur sens? Nun signifie poisson. Et il ramène le machal de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, l'Agmara dit dans Maseret Brachot que Rabbi Akiva réunissait de nombreux élèves, faisait des cours et enseignait la Torah, alors que les Romains l'avaient interdit. Et un juif qui, du nom de Papus Ben Yehuda, lui fit le reproche, lui dit, Rabbi Akiva, tu te mets en danger. Alors Rabbi Akiva lui fit la parabole des poissons et du renard. Le renard se promène sur la berge du lac et regarde l'eau et regarde les poissons qui sont tout le temps en mouvement. Il leur dit que pourquoi vous n'êtes jamais en arrêt? Il dit, nous avons peur, nous nous sauvons des filets des pêcheurs. Nous sommes en danger, tout le temps en danger. Le renard leur dit alors, montez à côté de moi sur la berge et je vous protégerai. Les poissons lui répondent, si déjà dans l'environnement de notre vie, dans le lieu où nous pouvons vivre, nous sommes en danger. Si nous sortons de l'eau, alors nous sommes déjà morts. Alors Rabbi Akiva dit exactement la même chose. Nous sommes comme les poissons dans l'eau. Si dans l'eau, dans l'élément de vie qui est le nôtre, la Torah, nous sommes en danger, si nous sortons de la Torah, alors nous sommes déjà morts. Nous n'existons plus. Et les deux nouns symbolise cet investissement total. Nous devons être immergés, comme les poissons sont immergés dans l'eau. Ils ne peuvent pas en sortir, ne serait-ce qu'un instant. La même chose, un Israël ne peut pas sortir de la Torah. Il doit être totalement immergé dans la Torah. Ça, c'est le sens des deux nouns. Et eux, que font-ils? Ils se détournent de la Torah. Ils mettent une limite à leur investissement dans la Torah. Et que Yakar dit, pourquoi l'exil est tellement long? Il parle de la période, il parle de son temps, il dit que le Midbar, toute la paracha, tout le livre des nombres s'appelle Bamidbar. Le Midbar, c'est l'histoire juive dans l'exil. Midbar signifie désert. C'est que, eh bien, le terme, la racine de ce mot est d'avar. D'avar, c'est une chose. Tout ce qui existe sur Terre est appelé d'avar. Pourquoi? Parce que les éléments de la création ont été définis par la parole, par le dibour. Le Midbar n'a pas de d'avar. Il n'y a pas de parole. On lui a retiré la parole, donc les éléments ne sont pas qualifiés, ne sont pas définis, ne sont pas. On n'arrive pas à savoir
à définir chaque élément à sa place. C'est comme si que c'était le tohu, c'est-à-dire que la matière brute est dominante. Dans toute chose, il y a matière brute. En prenant une matière brute, nous la formons, nous lui donnons une intelligence et nous transformons une matière brute en objet. L'objet traduit l'intelligence que l'homme a mis pour transformer la matière brute en quelque chose qui est utile. De même, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et le monde à travers la matière et lui a insufflé une intelligence, l'âme, pour transformer ces matières en quelque chose qui lui ressemble, nous ressemblant à Dieu par l'intelligence. Dans le Midbar, il n'y a pas ça. Les choses sont indéfinies. C'est comme si que nous dirions que les gens qui vivent dans le désert se comportent comme bon leur semble, comme des animaux. Ils ne sont pas définis par la culture. Ils ne se transforment pas des êtres matières, des corps qui deviennent intelligents, qui se rapprochent de Dieu. Il n'y a aucune spiritualité dans leur attitude et leur comportement. Donc c'est la galoute. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu s'est retiré. La présence de Dieu n'est pas visible. Ça, c'est la notion de galoute. Alors il dit, le Keliaka, il dit, je m'interroge sur la longueur de l'exil. Pourquoi l'exil est tellement long? Alors il répond, il dit, voilà la raison fondamentale, c'est que même ceux qui étudient la Torah, qui font les mitzvot, le font que par intérêt, pour avoir des honneurs, pour se grandir, ou pour savoir appliquer la Torah à les mitzvot. Quelle place font-ils à Dieu? Et il dit quelque chose de terrible, et il dit, tout le monde sait cela, et personne ne reproche et ne corrige la chose. Et il n'y a pas lieu de rallonger là-dessus parce que ce sont des choses connues. C'est extraordinaire parce que cette problématique, elle existe depuis le désert. Et Am Israël vit avec ça de manière récurrente, tout le temps, à toute génération, on se pose la question pourquoi la galoute est tellement longue. Et le fait de tourner, de mettre une limite à notre attachement à Dieu et à sa Torah, va nous entraîner à toutes sortes de dérives, à l'orgueil, le désir des biens matériels, et on va chercher des raisons de se plaindre, pour un oui, pour un non. Un autre rabbin d'Ashkenaz du XVIIe siècle va poser la même question, et il se dit, le Sefer Baal HaBerit se pose la question, il dit, j'ai réfléchi, j'ai recherché, j'ai véritablement analysé l'attitude des Juifs, la raison profonde de la longueur de l'exil. Et je me suis dit, pourquoi cet exil-là est tellement long? Et je suis arrivé à la conclusion, après une très longue analyse et une très longue réflexion profonde, que bien que, déjà à son époque, Rabbi Pinhas à Cohen de Vilna, une grande ville de savants et de yeshivot. Il dit, voilà, même à mon époque, il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah, de nombreuses sociétés d'études, des yeshivot, même les gens qui étudient le Talmud, les gens qui étudient les Mishnayot, les Midrashim, toutes les disciplines de la Torah et même la Kabbalah. Je suis arrivé à la conclusion que la galoute ne s'est pas interrompue parce que les gens font leur investissement dans la Torah est intéressé. Ils le font pour eux-mêmes, pour avoir des honneurs, ou pour avoir la bracha, pour avoir une réussite. Qui fait les choses de manière désintéressée juste pour relever l'honneur de Dieu et de la Torah? C'est la question qu'il pose et il dit, c'est ça la véritable raison de la longueur de l'exil. On retrouve exactement la même notion dans le Keliaka. Ces deux versets-là, ils sont mis entre parenthèses à cet endroit-là pour séparer la cause première, la raison fondamentale, la racine de toutes les dérives. La racine de toutes les dérives, c'est qu'ils ont tourné le Dieu à l'éternel. Ils ont quitté la présence de Dieu du Har Sinaï comme un enfant qui se sauve de l'école à l'heure de la sonnerie. Ça sonne, on se sauve. Et après cela, il y a toutes sortes de dégradations d'attitudes qui sont dues essentiellement à la présence du Erevrav, mais dont Israël aussi a été atteint. Comment solutionner les choses? Alors le Zohar donne une solution. Il dit ces versets-là, Vayi binso Aaron. Le Aaron, c'est l'arche d'alliance. Le mot Aaron signifie le lieu de la résidence. Et pourquoi le mot Aaron, l'arche, porte ce terme-là, Aaron? C'est quoi la racine du mot? C'est or, c'est la lumière. Le Aaron est qualifié de lumière parce qu'il contient la Torah. La Shekhina reposait sur le Aaron. Quand on voyait le Aaron, on sentait la présence de la Shekhina. Mais la Shekhina n'était pas uniquement sur le Aaron, elle retournait, le Noun retourne face vers Israël. Jamais la Shekhina ne va abandonner Israël. Elle regarde et surveille, étend ses ailes de loin sur Israël pour le préserver. Elle pourrait même donner le dos à Aaron. L'essentiel, c'est de préserver Israël. Le Aaron, dit Arizal, ce sont les mêmes lettres que Nora, redoutable. Nous disons dans la prière un Dieu redoutable. Que signifie que Dieu est redoutable? Nomades disent, c'est comment pourrait subsister une brebis égarée parmi 70 loups, la nation d'Israël égarée, éparpillée aux quatre coins de la terre, entre les 70 nations, pendant un temps énorme de 2000 ans, et il y a toujours Israël, malgré les persécutions, malgré les massacres, malgré les souffrances, nous sommes toujours là. Et toujours là, et avec des institutions, avec la Torah, avec des yeshivot, avec l'accomplissement des mitzvot. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est de là que nous voyons que Dieu est redoutable. Les nations elles-mêmes ne comprennent pas comment Dieu agit dans son monde. Donc le Aaron, c'est arriver à comprendre notre propre destinée. Si nous investissons dans Torah ou mitzvot, alors notre destinée dépend directement de la main de Dieu. Mais si nous détachons et nous donnons le dos à Hachem en mettant une limite à notre investissement dans la Torah, alors notre destinée devient la destinée de tout peuple. Nous sommes comme les autres nations, notre destinée est dépendante des aléas de l'histoire. Comme si que Dieu, c'est pas lui qui tirait les ficelles de notre histoire. Et à ce sujet, il est dit que la bracha de l'une des raisons pour laquelle la terre d'Israël a été détruite lors de la destruction du deuxième temple, la Gemara pose la question dans Nedarim, Alma Avda Ares, pourquoi la terre a été détruite? Pourquoi le temple a été détruit? Pourquoi Israël a été exilé? Pourquoi tant de souffrances? Et que la terre d'Israël est devenue désertique. Alma Avda Ares, Alosvam et Torati, ils ont abandonné ma Torah, dit Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit que ça veut dire quoi? Ils ont abandonné la Torah, ils n'ont pas fait la bracha. Avant d'étudier, ils n'ont pas fait la bracha. Le Bait Hadash sur le tour au Siman, même Zayin, pose la question, il dit, ne pas faire une bracha, ils ont étudié. Ils n'ont juste, ils n'ont pas fait la bracha. C'est une avéra relativement anodine, petite avéra. Une petite avéra, une telle sanction. Comment comprendre cela? Destruction totale du temple, destruction totale de la terre d'Israël, éparpillement, dispersion complète d'Israël, parce qu'ils n'ont pas fait la bracha qui précède l'étude de la Torah. Alors le Bar fait un long développement sur la valeur de l'étude. Il dit, que signifie l'investissement dans l'étude? Il dit la manière suivante, dit, quand on étudie la Torah, le but, la finalité de l'étude de la Torah, on s'investit totalement, on se sanctifie. Et la finalité, c'est que faire résider Akadosh Baruch Hu sur cette terre. Nous détachons de la matérialité et nous investissons, nous sommes immergés dans la Kdusha, de manière à faire que dans ce monde, c'est le rendre à Hachem son monde. C'est celui qui nous dirige. Il dit, quand ils n'ont pas fait la bracha qui précède l'étude, cela signifie qu'ils ont réduit l'étude de la Torah à une science. Pour eux, ils étudiaient la Torah pour savoir comment accomplir les mitzvot. Ils étudiaient la Torah dans l'intérêt de se grandir, ou bien dans l'intérêt d'obtenir des honneurs, etc. Donc ils ont réduit la dimension de Torah, la science de Dieu, à une science matérielle et physique. Akadosh Baruch Hu s'est retiré de les a abandonnés. La Shekhina est remontée, elle dit, c'est pas ma Torah. L'attitude, la manière de faire n'est pas fondamentalement la Torah. Donc, vous n'avez pas besoin de moi, ils se retirent. Quand je vous ai retiré, il les a abandonnés à leur propre destinée. Donc, c'est pour ça que la terre a été détruite. Et c'est exactement ce que dit ici le Sefer Abrit et le Keli Yakar. Comment solutionner ça? Regardons, retournons à nos sources. Ne nous sauvons pas, ne voyons pas, ne quittons pas le Har Sinaï, non pas le lieu physique du Har Sinaï, mais la montagne de l'Éternel. Il faut méditer, réfléchir, réduire. Même le peu de temps que nous consacrons à la Torah et aux mitzvot, nous devons le consacrer avec qualité, donner de l'intention aux choses, de manière à ce que véritablement Kadosh Baruch Hu, il nous prenne en pitié, et que les quelques instants de la journée, tous ceux qui travaillent, qui ont des soucis du quotidien, consacrent quelques temps pour l'étude, pour la prière, le faire correctement, donner de la qualité et de la valeur à la Torah aux mitzvot que nous accomplissons, afin que Bémet, à Kadosh Baruch Hu, nous rendions à Dieu son monde et que notre destinée soit entre ses mains. Yehi Ratzon, que Kadosh Baruch Hu exauce toutes vos prières et vous comble de ses bénédictions. Kol Tov.